France Musique. France Musique, les grands entretiens, Christophe Dillis.
Je m'appelle Jean Tubéry. Je suis né à Toulouse un 3 avril 1964. Je suis ici afin de partager notre passion commune, la musique.
Nous sommes encore dans les années 70-80. Ce n'est plus en France que vous vous formez en flûte à bec, mais à Amsterdam. Amsterdam, dans les années 70-80, c'est une capitale qui a une longueur d'avance sur l'enseignement de la musique ancienne en Europe.
Sans doute, et puis c'est surtout la ville de la liberté par excellence, en fait. La liberté en général, et la liberté d'aborder une musique comme bon semblait à cette génération post-68 tard, je dirais. Donc le mouvement des baroqueux a accompagné aussi cette génération, ce vent de liberté qui a soufflé dans les années 70, après mai 68. Et donc, en tant que jeune musicien des années 80, on sentait encore ce vent de liberté qui soufflait sur la ville d'Amsterdam, sans aucun doute. Donc j'ai eu un grand bonheur à y passer 3 années de ma jeunesse. Autour des 20 ans, c'était une expérience extraordinaire pour le jeune musicien que j'étais, et puis la chance de découvrir alors le caractère cosmopolite de la ville, mais aussi des musiciens, donc des cultures européennes et sud-américaines. Donc véritablement, de nouveau, un bouillon de culture extraordinaire qui m'a permis d'ouvrir les portes que je ne connaissais pas au Conservatoire de Toulouse, là, va sans dire.
Alors, bouillon de culture cosmopolite, bouillon de culture aussi interdisciplinaire. Vous y étudiez la flûte à bec, mais pas que. On vous connaît aujourd'hui aussi comme chef d'orchestre. C'est dans ces années-là que vous vous y mettez.
Oui, un peu plus tard, à vrai dire, puisque mon passage à Amsterdam, durant 3 années, c'est vraiment autour des 20 ans. Et puis ensuite, le cornet à bouquins a eu une place tellement importante que j'ai décidé d'aller l'étudier auprès du grand maître, du grand pionnier en la matière, c'est-à-dire Bruce Dickey, cet Américain qui vivait en Italie, à Bologne, et qui venait sur Bâle tous les mois. Bâle, où se trouve la Schola Cantorum Basiliensis, le grand institut en Europe pour étudier la musique ancienne. Je pense que c'est encore et toujours, de nos jours, l'institut le plus complet, à vrai dire, pour ce faire. Donc, c'est là que j'ai rencontré, par exemple, Hans Martin Linde, qui fut mon premier professeur en matière de direction chorale, par exemple.
On dirige la musique chorale ou orchestrale ancienne comme la musique moderne ?
Alors, je pense que toutes les options sont permises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé la direction avec la direction d'orchestre moderne ou la direction de chœur, telle qu'on l'apprend dans les conservatoires, et qui abordent la musique baroque par la suite, dans un second temps. Donc ces gens-là ont une technique, je dirais, qui est extrêmement développée, très formatée, et qui vont devoir ensuite apprendre un langage. Et puis il y a les gens qui font la démarche inverse, donc ce qu'on appelle les baroqueux, par exemple, qui viennent de cette musique-là, qui la connaissent bien, qui en connaissent le langage, mais qui n'ont pas forcément cette technique de direction pour transmettre leurs idées, leurs émotions. Et j'essayais, à vrai dire, grâce à Hans Martin Linde, de faire en sorte que ces deux mondes puissent se côtoyer, à savoir essayer d'acquérir ces notions de technique de direction, l'essentiel, je dirais, pour pouvoir communiquer ses idées, ses sentiments et sa passion, sans pour autant renoncer à ses convictions par rapport à une musique qui a toujours été ma passion. Thank you.
Jean Tuberry, depuis quelques années, le cornet se défait de son étiquette d'instrument rare. Il n'y a pas un trimestre sans qu'un disque consacré au cornet à bouquin soit publié. Est-ce que ça vous surprend de devoir continuer à présenter l'instrument au public comme s'il s'agissait encore d'une nouveauté?
Oh ben je dirais que le fait d'expliquer ce qu'est un cornet à bouquin fait partie de notre métier de cornettiste à bouquin. Je pense n'avoir jamais donné un seul concert dans lequel tout le public savait ce qu'était un cornet à bouquin. Donc ça fait partie de notre métier. Alors voilà, effectivement, si on joue à Toulouse, on a un peu plus de chance de rencontrer parmi le public les gens qui ont rencontré cet instrument que si on joue voilà au nord de la Lituanie. Mais cela dit, il y a toujours ces zones d'ombre, savoir de quoi l'instrument est fait, comment souffle-t-on dedans, y a-t-il une hanche, y a-t-il une embouchure, etc. Cette technique est bien sûr toujours très méconnue du grand public. Je me prête volontiers à ce jeu qui consiste à expliquer le pourquoi de cet instrument, qui est un instrument hybride à vrai dire, puisque voilà, il est fait de bois, avec une embouchure en corne, on souffle dedans comme dans une trompette, on bouge les doigts comme sur une flûte. Donc c'est un instrument qui a bel et bien disparu de l'instrumentarium moderne.
C'est un instrument difficile à jouer?
Moi, je trouve que c'est difficile à jouer, mais il y a des gens extrêmement doués qui arrivent à le faire en sorte qu'il semble facile. Mais je ne connais personne qui se mette à cet instrument et qui en joue aussi naturellement, par exemple, qu'on pourrait jouer de la flûte à bec. Donc c'est vrai qu'il faut acquérir ces deux techniques, à savoir la technique d'émission de la trompette et puis la facilité digitale de la flûte à bec. Donc quelque part, il faut, quoi qu'il en soit, recommencer à zéro, quel que soit l'instrument moderne que l'on ait abordé au préalable. C'est en ça, sans doute, qu'il est difficile et qu'il reste rare de rencontrer des gens pour qui c'est un instrument facile à jouer. Il faut bien dire que le cornet a un répertoire assez restreint dans le temps, c'est-à-dire qu'il a beaucoup été joué au XVIe siècle, durant la Renaissance, mais la Renaissance n'est pas un répertoire qui a touché le grand public. Et puis l'instrument disparaît assez vite au début du XVIIe siècle, donc l'instrument est très peu joué durant la musique du baroque plus tardif, des grands compositeurs davantage connus du grand public, comme les Vivaldi, comme les Bach ou Handel, qui utilisent très peu cet instrument. Quand bien même, on le retrouve d'ailleurs chez Bach dans un bon nombre de ses cantates. Mais le fait est qu'il n'a rien, le pauvre, pour se faire connaître davantage. C'est vrai que depuis 30 ans que j'ai la chance de l'enseigner ici, à Paris par exemple, eh bien, il me semble que le nombre des musiciens qui s'intéressent à l'instrument reste assez restreint. C'est dommage parce qu'il a une, malgré tout, une place considérable dans cette partie de répertoire restreinte qui lui est consacrée, donc à savoir celle de la Renaissance et du premier baroque.
Alors, c'est un instrument, le cornet à bouquin, qui a disparu avant de renaître, et ça c'est quand même plutôt rare pour être noté. Le violon, le piano, la flûte, les instruments de l'orchestre d'aujourd'hui n'ont pas disparu avant de revenir au XXe siècle. Il n'y a pas eu d'interruption, il y a une sorte de filiation de maître à élève qui permet de garder un jeu plutôt historique, ce qu'il n'y a pas avec le cornet. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut deviner comment le cornet à bouquin était joué au XVIe et XVIIe siècle?
Oui, je pense que cela fait partie du métier du musicien qui se consacre à ce répertoire et à ces instruments oubliés. Il en est un peu de même avec, par exemple, la viole de gamme, mais tous les ancêtres des instruments modernes, que ce soit le traverso, donc cette flûte traversière à une seule clé, ou bien le hautbois baroque, la trompette baroque qui n'a aucun piston. Tous ces instruments sont malgré tout très différents de leurs ancêtres. Donc il y a toujours une technique à retrouver avec son intuition de musicien, parce qu'en fait il n'y a aucune méthode qui nous explique de long en large ce qu'il en était. Et puis, il n'y a toujours pas de tuto du XVIIe siècle qui nous soit parvenu. Donc, il faut quand même faire preuve d'une certaine intuition, quelque part. Et puis, il faut tâcher, au bout du compte, de proposer une interprétation hypothétique par rapport à ce que l'on sait de l'instrument et du répertoire. Cela reste, en fait, quelque chose de très personnel que le musicien est à même de nous donner de nos jours au XXIe siècle.
Musique, les grands entretiens de Jean Tubéry.
Et si quelqu'un vous dit, oui, mais de toute façon, on ne savait pas comment c'était joué, vous avez quand même des éléments de réponse.
C'est vrai qu'il y a toutes ces sources, que ce soit les écrits, que ce soit l'iconographie, que ce soit la musique qui en témoigne. Toutes ces sources, quand elles sont recoupées, nous permettent d'en savoir davantage. Comme tout chercheur, que ce soit dans le domaine de l'archéologie, de toute science, la musicologie nous permet d'aborder cet instrument de manière un peu plus rigoureuse. Mais au bout du compte, quand il s'agit de faire un son, il faut oublier tout cet aspect cérébral du travail du musicien. Donc il n'y a plus que les lèvres, le souffle, les doigts qui doivent se mettre en branle et faire en sorte que on produise un son qui soit attrayant, puis un son qui permette de chanter avec cet instrument. Et donc c'est là que l'intuition du musicien entre en jeu, et ça me semble être peut-être la partie la plus passionnante de ce métier de musicien baroque ou de musicien consacré à la musique ancienne.
Oui, parce qu'on a cette image du musicien baroque plié sur les anciennes partitions, mais c'est quand même un artiste, c'est quand même un musicien, c'est pas forcément que un historien.
On espère que ce n'est pas qu'un historien, sinon c'est un musicologue. Donc le musicologue s'attache à cet aspect rigoureux de la recherche scientifique. Le musicien est censé transmettre une émotion artistique. La difficulté, finalement, c'est cette dichotomie entre l'aspect cérébral du travail et puis l'aspect intuitif, dionysiaque, je dirais, du musicien. Faire en sorte que, au bout du compte, le sens prenne le pas sur l'esprit, faire en sorte que le son prenne aussi le pas sur la pensée, n'est-ce pas? Puisque notre communication, elle se fait à travers cette sonorité et à travers ce langage musical. Et quelque part, ces deux entités, à la fois l'aspect cérébral de la recherche et puis l'aspect au contraire très intuitif, très sensuel du musicien, personnellement m'ont toujours fasciné. Je pense un petit peu justement à mon père qui était donc un scientifique, mais qui était aussi un touche à tout surdoué de la musique, et c'est peut-être de là que je tiens cette passion entre cet aller-retour permanent entre l'aspect rationnel des choses et l'aspect émotionnel de la musique.
Thank you.
Alors, vous fondez, Jean Duberry, en 1990, l'ensemble Les Fenice. Toujours avant d'en arriver là, c'était qui Jean Duberry avant La Fenice, en tant qu'artiste? Vous avez fréquenté les plus grands orchestres européens.
La Fenice est arrivée assez vite dans mon parcours musical, donc en 90, donc j'avais 25 ans, quand nous avons gagné ce premier prix du concours de Bruges. Au préalable, j'avais eu la chance, en effet, de côtoyer les grands musiciens, les grands chefs de l'époque. J'ai eu la chance, par exemple, de chanter des Vêpres de Monteverdi sous la direction d'un Jean-Claude Malgoire ou sous la direction d'un Michel Corbeau. J'ai eu la chance aussi, par exemple, je me souviens d'un voyage qui avait été improvisé depuis Toulouse, que nous avons effectué avec Xavier Darras. Xavier Darras, qui était le grand organiste toulousain, qui voulait à tout prix entendre le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolas Arnoncourt. Ce Concertus Musicus ne se produisait pas en France et n'était pas prévu avant des années. Par contre, il allait se produire à Barcelone. Eh bien, nous avons pris la même voiture avec Xavier Darras, Willem Janssen, mon professeur de musique baroque de l'époque, et encore un collègue, pour aller écouter le Concertus Musicus de Vienne à Barcelone, avec l'aller-retour dans la soirée. Donc vous voyez que c'était une époque dans laquelle on avait une soif de découverte phénoménale, une époque qui reste voilà, gravée dans mon cœur de jeune musicien, je dirais. Peut-être la richesse de la musique baroque, c'est justement cet aspect des ensembles à géométrie variable qui permet de côtoyer différents directeurs artistiques, différentes conceptions de la musique. Et puis, en ce qui me concerne, dans les années 90, nous étions très peu, à vrai dire, joués de ce cornet à bouquin. Donc, chaque fois qu'il fallait monter des Vêpres de Monteverdi, un Orfeo, eh bien, on faisait appel à nous, que ce soit les Sacboutis de Toulouse, l'ensemble La Fenice et nos collègues de l'époque. Assez rare, à vrai dire, pour pouvoir voyager à travers l'Europe et redécouvrir cette musique à travers différentes lectures. Et ça, ce fut, je dois dire, une période très enrichissante en tant que jeune musicien que j'étais dans ces années 90.
Jean Duberry, avant d'être le chef de La Fenice, vous étiez cornettiste tout court. Vous avez été dirigé par les chefs les plus importants des années 70-80. Vous avez appris votre métier sous la direction de ces chefs. Je pense notamment à René Jacobs.
Alors, ils sont nombreux, ces chefs avec lesquels j'ai beaucoup appris. René Jacobs, bien sûr, qui était avec Jordi Savall, un de mes professeurs à la Scuola Cantorum Basiliensis. Donc, rendez-vous compte, on sortait d'un cours avec René Jacobs, on entrait dans la classe suivante avec Jordi Savall, et puis on allait côtoyer un Christophe Coin, un Anthony Rulli, une Emma Kirby. Donc, tous ces gens-là qui furent quelque part des pionniers en la matière, furent nos professeurs. Donc, c'est vraiment une chance assez unique. Et puis, par la suite, ensuite, j'ai eu là encore la chance de côtoyer les gens qui donnaient cette musique-là, entre autres, je dirais, mais qui n'étaient pas des spécialistes consacrés à la musique du XVIIe, mais qui l'avaient donné avec une connaissance du langage extraordinaire, que ce soit un Philippe Hervègue, un William Christie, un Jean-Claude Malgoire, un Gabriel Garrido encore, que j'ai côtoyé jusqu'à la fin des années 90, un Paul Van Nevel, enfin, la liste est assez longue, à vrai dire. Et donc, tous ces gens-là ont beaucoup compté, bien sûr, dans ma formation de jeunes musiciens.
Ces artistes qui sont en pleine activité aujourd'hui, est-ce que ça vous manque, Jean Duberry, de jouer sous leur direction ?
Non, je pense qu'il y a une période pour tout. Donc ça, c'était une période de formation. Et puis, à un moment donné, disons que j'ai eu envie de montrer d'autres aspects de cette musique, l'éclairer différemment, sous d'autres angles, avec d'autres instrumentations, et donc avec une approche différente aussi par rapport au texte, par rapport à la sonorité, par rapport au fait que j'étais cornettiste de formation et que mon instrument était réputé en son temps comme étant l'instrument le plus apte à imiter la voix humaine. Donc il m'a semblé intéressant d'évoquer ce miroir entre la voix et l'instrument, cet instrument que je tâchais de redécouvrir, mais qui était aussi le miroir de la voix de l'époque. Donc ce double jeu de reflets entre l'un et l'autre m'a permis d'aborder aussi la musique vocale différemment. Et c'est peut-être en cela que j'ai eu la chance de diriger cette musique en venant du cornet à bouquin, avec une approche qui n'était pas celle des chefs qui venaient du clavecin, de la viole de gambe ou d'autres instruments encore.
C'était le deuxième épisode de cette série de grands entretiens avec le cornettiste et chef d'orchestre Jean Duberry, série réalisée par Christine Amado, avec Julie Garraud à la technique et Romain Lenoir au mixage. L'attachée d'émission était Flora Sternadel. Vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres, sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.